Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Denis Charvet, avec Pascal Duprat, David Douillet, Christophe Cessieux et vous au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Vous retrouvez les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Évidemment, dans un instant, on va parler du complexe d'infériorité dans le vestiaire. Et puis, on va se demander si avec un grand Dembélé qui a marqué un triplé hier soir lors de la victoire 4-1 face à la Norvège, est-ce que les Bleus deviennent injouables? Ils joueront mardi en 16e de finale face à la Suède. David Douillet est là. David Douillet qui était en ce moment en grande répétition de théâtre, hein. Il faut le dire, hein, David. Hein.
Ah oui, oui, c'est une belle aventure. Ouais.
C'est quoi, tu vas faire le Tour de France, c'est ça?
Oui, c'est ça, à partir du 12 septembre, c'est la première à Lyon, et on va jouer là-bas pendant un mois. Mais pour moi, c'est la grande découverte parce que, voilà, je démarre de rien. Je suis dirigé par Philippe Lelouch qui a écrit la pièce.
Ah ouais.
Formidable pièce.
Qui est venu te chercher, Philippe.
Oui, qui est venu me chercher. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, et puis d'un seul coup, voilà, sans rien lui demander, mais.
T'as jamais fait ça?
Jamais. Je suis une ceinture blanche.
Mais t'as eu envie de ça, tu m'as dit.
C'était un rêve de gosse que j'avais jamais avoué, en fait. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
C'est chaud ou pas? C'est stressant?
Ah bah, quand tu connais pas, c'est stressant, oui. Alors là, je dis pas que je flippe tous les jours, mais je suis dans l'inconnu, quoi. Je débroussaille, tu vois. Je suis dans terrain, je défriche, quoi, au quotidien. Mais ça se passe super bien, parce que j'ai trois autres acteurs, Géraldine Lapalu, Philippe Curat et puis Pascal Olmedo, qui sont géniaux, c'est des vrais acteurs, géniaux, ils m'aident, ils sont bienveillants. Franchement, c'est une équipe d'enfer, c'est génial.
Là, je pense qu'il est rentré dans le combat, David.
C'est complètement ça. Hein. T'es en pleine préparation pour faire tes petits Jeux Olympiques du mois de septembre. Voilà.
Mais surtout, là, t'arrives sur scène, t'es plus le double champion olympique.
Ah, t'es rien. T'es ceinture blanche.
Tu sais combien de représentations déjà prévu, 122.
Non, mais c'est.
On
s'imagine pas ce que c'est.
Ah, mais moi non plus.
T'as appris 71 pages de texte ou t'es en train de le faire?
Là, la première semaine, on en est à 30 sur 71. Ouais, c'est pas mal, ouais.
T'es plus stressé pour ça ou pour ta deuxième finale olympique?
Je suis pas stressé, je me. Bip dessus. Ouais,
il a un boss qui est formidable, qui s'appelle Philippe Lelouch.
Ouais,
qui est un très grand metteur en scène.
Et un très grand acteur.
Et un très grand acteur, évidemment.
Là, j'ai un entraîneur-joueur, tu vois, c'est formidable. Génial.
Vous savez quoi, en fait, le truc, c'est qu'avec David, il nous habitue tellement à l'excellence que peut-être dans deux ans, on va entendre. And the Oscar goes to David Douillet. Et pourquoi pas. Allez, avant cela, en fin d'émission, il y aura les jeux du sport, hein, quand même, avec vos GG. Aujourd'hui, on remportait un bon cadeau de 50€ à valoir sur Agfa Photo Print. Vous pourrez imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances, hein. Les vacances arrivent, sur un album photo, un poster ou un mug. Sinon, vous pouvez imprimer une photo de Christophe Cessieux et la mettre sur un mug. Et tous les matins, vous réveillez avec la tête de Christophe.
C'est ça.
Vous pouvez faire, faites ce que vous voulez.
Ah, j'aimerais bien en avoir un. Voilà. Ça a motivé.
Pour remporter votre bon cadeau, Agfa Photo Print, appelle le 3216, touche 4, envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. Ou sinon, un mug avec la tête de David sur le deuxième, c'est nul.
Ouais.
Pour motiver le matin. Allez, tout de suite, on ouvre le vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est évidemment la finale du top 14. On a parlé il y a un instant, on a dit que est-ce que Toulouse est invincible. Toulouse pèse 24 boucliers de Brennus, on l'a dit, ils cherchent à en gagner un quatrième d'affilée. En fait, comment ne pas nourrir un complexe d'infériorité un petit peu quand on est en face, même si les Montpellierains, on les a entendus hein, tout à l'heure, un peu agacés, qu'on parle beaucoup de Toulouse, mais c'est humain,
inconsciemment.
Et comme les nations en Coupe du Monde qui vont affronter, je sais pas, il y a Argentine, Jordanie par exemple, vous imaginez les Jordaniens qui vont affronter Messi et les champions du monde, ceux qui vont affronter Djokovic et Sinner à Wimbledon. Je voudrais qu'on parle de ça, les amis. Comment est-ce qu'on maîtrise le complexe d'infériorité, David, Denis, Pascal, Christophe, hein, on peut en parler.
Mais... Oh, il n'a pas de complexe.
David, d'abord, c'est vrai que on a cette construction mentale avec toi. Tu es l'invincible. L'être supérieur.
N'importe quoi.
Non mais en préparant cette émission, tu m'as dit, moi aussi, j'ai eu un complexe d'infériorité.
Ah bah oui. Mais bien sûr, quand tu es dans le monde du judo, la première fois que j'ai rencontré un Japonais. Bah ouais, j'ai eu ce complexe d'infériorité.
Parce que c'est les Japonais.
Mais bien sûr, parce que c'est la légende. Ils ont créé ce sport. C'était et ça reste une des plus grandes nations du judo, et avec des individualités hors normes comme Yamashita, comme Nomura, etc., etc. Donc t'arrives, tu rencontres le premier Japonais, puis tu vois leur physique. Tu vois, ils sont avec un centre de gravité extrêmement bas. Quand tu les vois à l'échauffement, ils font des mouvements quasi parfaits. Enfin, t'es là, toi t'es un jeune bleu. Bonjour monsieur, enfin voilà, tu salues, puis te regardes. Et en plus, le Japonais aime ça, il est assez hautain, voilà. Et ils savent, et ils en rajoutent.
Et ça t'impacte, ça.
Et ça t'impacte, évidemment que ça t'impacte. Mais, et j'espère que ça sera le cas de Montpellier ce soir, quand tu rentres et que tu commences à aller à la poloche, là, que ça commence à être dur, et que tu commences à voir perler les gouttes de sueur sur le front de l'autre, tu dis, ben attends, mais il sue lui aussi.
Il transpire comme moi.
Bah oui.
Il est comme moi.
Et puis il tourne la tête pour aller chercher des renseignements sur le coach qui est en train de lui vociférer des trucs sur le côté. Et donc il doute. Ah, mais attends, mais il est comme moi en fait. Et là, ça y est, tac.
Oui, dès que tu humanises. Oui,
parce qu'il faut mettre le doute à l'adversaire, c'est surtout ça.
Oui, moi, bah oui, si tu prends une tôle tout de suite, t'as pas le temps de voir tout ça, c'est sûr.
Mais, non, mais c'est la vérité.
Oui. Non, mais c'est sûr, mais si t'as si un peu de confrontation, etc., ce sentiment-là disparaît très vite. Et c'est peut-être ce qu'on va voir ce soir, avec des Montpelliérains qui vont être un petit peu sur l'enculoir au début, et puis la poloche va commencer, la dureté va commencer, les combats vont commencer, et là, ça va s'enclencher.
Pascal Duprat, t'as entraîné des équipes qui étaient, on va dire la vérité, qui n'étaient jamais favorites face au Paris Saint-Germain, par exemple, qui était l'ogre du championnat. Est-ce que tu devais penser à un potentiel complexe d'infériorité que pouvaient avoir tes joueurs, qu'il fallait gérer pour toi?
Oui, bien sûr. Faut d'abord se rappeler de sa carrière. Moi, tout petit, j'arrive de ma Haute-Savoie natale. J'ai 14 ans au centre de formation du FC Sochaux. À cette époque-là, c'était 16 joueurs, mais c'était des catégories d'âge disparates. Donc Bernard Giangini, Yannick Stopira, Joël Batz, tous plus vieux que moi. Moi, j'ai 14 ans.
Français.
Je me dessus. Okay. Et donc après, c'est comme l'a très bien dit David. Ils sont comme toi. Tu t'aperçois que t'as le niveau. Et puis tu veux t'étalonner. Et donc ensuite, quand tu es entraîneur, tu sais, entraîneur de mon club, c'était d'abord le 7e club du département de la Haute-Savoie. Alors crois-moi, des complexes, on en nourrissait beaucoup pour aller jusqu'en Ligue 1 et à défier tout le monde. Donc tout ceci, ça se construit. La première construction, c'est le travail. Je connais pas de réussite, ou quelle qu'elle soit, si tu travailles pas. Donc s'entraîner plus et s'entraîner mieux, et puis à force, eh bien, faire en sorte que les joueurs arrivent au moment fatidique sans avoir fait le match avant, sans l'avoir disputé dans leur chambre pendant la sieste.
Par exemple, une semaine de Evian Thonon PSG, parce que je crois que tu les as battus 3 ou 4 fois quand même dans ta carrière d'entraîneur.
Oui,
est-ce que tu faisais un truc spécial?
Non, rien de spécial. Voilà, moi j'étais pas pour faire d'un événement quelque chose de sacralisé.
Ouais, sinon on rajoute des choses. En fait.
Voilà, tu rajoutes de la pression en fait. Et puis c'est uniquement dire aux joueurs, être les réconforter, leur dire qu'ils sont là et bien là. Donc s'ils jouent le PSG, c'est qu'ils ont le droit et le mérite de jouer contre eux. Et puis de leur dire que s'il y a bien un domaine dans lequel ils vont être meilleurs qu'eux, c'est la motivation. Parce que le Paris Saint-Germain jouait contre Evian Thonon Gaillard ou Toulouse, généralement ils en avaient pas grand chose à faire. Et donc au niveau motivationnel, il est certain que nos joueurs étaient mieux armés, mieux préparés, parce que prêts à défier le Paris Saint-Germain.
On l'a vécu.
Et puis ensuite, notre sport est un sport collectif. C'est là toute la différence.
Ah oui.
C'est que la somme d'individualité fait un collectif, et que sur un match, eh bien, n'importe quelle équipe au foot peut battre le champion de France en titre, ou le champion d'Europe depuis 2 années.
Mais il faut l'avoir quand même en tête dans l'approche.
Ouais, mais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a eu un petit complexe d'infériorité sur ce plateau entre Denis et Christophe.
Oui, absolument.
Oui, c'est vrai, il faut savoir.
C'est quand t'as bougé tout à l'heure.
J'emploierai pas le mot alors.
Ah bon ?
C'est pas tellement ça.
C'est pas ça ?
Ouais, explique-moi. Je vais pas en parler. C'est plutôt le bras de fer, et je l'ai quand même écrasé.
Oui, une fatigue passagère.
Et donc, tu lui as pété le coude.
Change, fais-moi taire parce que je pense que je vais exploser.
Comment maîtrise le complexe d'infériorité dans le sport de haut niveau ? On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC. Denis, dans ton sport, Il y a, alors, David a parlé des Japonais dans le foot quand on est gamin. Il y a le maillot des Brésiliens qui fait peur.
Il y a All Black. Mais l'All Black de tout temps, enfin de tout temps, ça s'est arrêté un jour. Mais
il y a eu un complexe d'infériorité, toi, face aux Blacks.
Mais alors, je parle pas que de moi, je parle des générations. Et en 79, ils ont battu le jour de 14 juillet. Alors, moi, c'est ma génération. Ils battent les Blacks chez eux avec Jean-Pierre Rive, Jérôme Gallion, enfin, tout le monde. Ils font un match héroïque. Et là, on s'est dit, ça y est, ils ont
vaincu le signe indien.
Ouais, exactement. Ouais. Ça a été.
Ils ont ouvert la brèche.
Ça a été un truc de dément. C'est-à-dire, quand on s'est dit, ils sont battables.
Non, mais comme a dit David, en fait, à partir du moment où tu les humanises.
On les humanise, mais le problème, ils ont toujours été très forts, quand même. Il faut dire la vérité. Ils roulaient sur tout le monde. Mais c'est vrai qu'il existait, ce complexe d'infériorité. J'ai eu la chance de jouer 6 fois, et tu joues pas les Blacks comme tu joues une autre nation.
T'as une appréhension. Le AK d'entrée.
Non, c'est pas que le AK.
Ça te file quand même les chocs.
Non, c'est l'appréhension.
C'est vrai,
le AK, tu sors. En tant que joueur, tu le mets de côté parce que t'es tellement concentré, focus. Tu te dis, tu penses à ton premier plaquage, tu penses surtout à pas être ridicule. La vérité, c'est que c'est plus la peur du ridicule que le complexe d'infériorité.
En fait. Ah oui.
Mais c'est plus vraiment, c'est un truc. Et en 86, alors on a la chance de les battre. Et alors grâce à, c'est le match de Jacques Foroux à l'époque qui avait préparé ce match vraiment d'une manière incroyable. Ça avait été très très dur dans la préparation et on leur roule dessus à Nantes. Match héroïque que font les avants. Enfin bon, on est ce jour-là collectivement, on les a battus. Ils ont été marqués pendant 40 ans. Ils en parlent encore. Hein. Marqué physiquement, marqué.
Tu crées un complexe chez celui qui crée des complexes.
Non, mais c'est incroyable. Alors après, je te dis ça, mais 6 mois après, on perd en finale contre eux de la Coupe du Monde.
Oui, mais bon, tu les marques.
Mais on les avait marqués parce que c'est resté dans l'histoire des Blacks. Ce match-là, il restait vraiment dans l'histoire des Blacks. Mais, et c'est vrai qu'un jour, tu te dis, bon, mais ils sont comme toi, quoi.
Alors qu'avant, tu les badais, en fait.
Mais tu badais complètement. Tu en faisais des super-héros.
Ouais. Jusqu'au début des années 60, il n'y avait aucun non-japonais qui gagnait un championnat du monde de judo. Aucun. Ouais. Aucun non-japonais. Anton Gessing, l'Hollandais, est le premier à battre un japonais en finale à Tokyo.
Donc il y a des faits qui te
mais ils en parlent encore, oui. C'est celui qui a ouvert la brèche à tel point que le lendemain, le lendemain deuil national dans tout le pays. Tu vois le délire. Voilà.
Mais alors toi David, tu as provoqué des complexes d'infériorité aussi à tes adversaires. Est-ce que tu l'as constaté?
Oui. Forcément. J'ai déjà remarqué.
Non, mais non. Ouais. Alors, mais c'est quoi? Parce que
le gars.
Tu sens l'ascendant que tu as.
Bah oui, parce que tu sais, en plus, dans un combat, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que le mec, il tend les bras, il se met le cul en arrière, il prend aucun risque, il défend, il ne fait que défendre. Enfin, il veut pas que tu le touches, etc. Il fait de l'anti-judo.
Il y a appréhension.
Oui, il y a appréhension. Donc là, tu te dis. Oh, ça va être un combat de naze, quoi. Ça va pas être beau, ça va être galère, ça va pas être chouette, tu vois. Le mec va prendre aucun risque, toi, tu vas avoir du mal à installer ton judo, etc. Donc ça va être un combat pourri, en fait. Donc c'est décevant. C'est décevant. Il y a rien de plus magnifique que lorsque t'as un adversaire qui donne tout ce qu'il a, tu vois, et qui va au fond de ses capacités. Il y en a même un une fois.
Toi, tu voulais que les mecs ils soient encore plus motivés.
Mais bien sûr. Mais sinon, tu fais pas un beau combat.
Oui,
c'est
mais pourquoi c'était plus facile presque qu'ils combattent pas.
Non. Non, moi ça me posait plus de problèmes à la limite, toi. C'est parce que un gars qui veut pas tomber, qui se met le cul en arrière, qui tend les bras, etc. faut aller le chercher, hein. C'est des gars qui font 50 kilos quand même.
Avec un bloc bar, ça donne pas des beaux matchs. Essayer de rentrer dans ce bloc bar, on regarde les matchs que ça donne.
Ou comme en boxe, les combats plus poids lourds, s'accrocher à Tyson, par exemple.
C'est insupportable. C'est ça, c'est insupportable.
Non, mais.
Ça t'est arrivé, David, pas souvent, mais qu'un challenger t'ait battu. C'est-à-dire que le type qui nourrissait des complexes contre toi, c'est arrivé.
Il réfléchit parce que
je crois que pose cette question-là.
Le regard noir.
Jamais.
Attends, il réfléchit, Pascal.
Non, je me suis déjà fait battre, mais parce que j'étais moins bon que l'autre.
Voilà, ça ton explication. C'est pas l'autre qui est allé se sublimer ou c'est parce que toi t'étais moins prêt, moins présent à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Exactement. C'est de ma faute à chaque fois.
C'est ta faute.
T'as excès de confiance.
Une fois, oui, ça m'est arrivé. Une fois, je me suis retrouvé. J'étais face à un Hollandais qui était fort, mais bon, ça allait. J'étais en demi-finale et je lui mets tout le tableau, le sapin de Noël, tu vois, tout est allumé, je lui mets tout le tableau, etc. Il reste 3 ou 4 secondes. Là, l'arbitre casse le combat, faut qu'on se rhabille. Bon, on se rhabille. Je jure, je me retourne, je reste 3 secondes. Je dis, bon, c'est gagné. Et là, le mec arrive devant moi J'ai encore la sensation d'être en planche à 1m50 sur le gong. Je prends une tôle, mon vieux, mais une tôle parce que je me suis relâché. Ouais. Et là, ce jour-là, je me suis dit, un combat, ça dure pas 5 minutes, ça dure 5 minutes et 1 seconde. Voilà.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Comment on gère le complexe d'infériorité, parce que ça existe, ça existe, on peut le combattre en humanisant l'adversaire. C'est intéressant de vous écouter, Pascal. Toi, on a parlé tout à l'heure de l'approche des matchs face au Paris Saint-Germain. Il y a un truc que tu ne voulais absolument pas voir de tes joueurs, et tu leur disais quand même dans l'avant-match.
Je leur disais, mais je ne sais pas s'ils m'ont écouté. Moi, je me souviens d'une image, c'est Ibra au Parc des Princes, à la fin d'un match, il y a un joueur de l'équipe adverse, je ne me souviens plus qui, mais je me rappelle de cette image, qui vient échanger son maillot. Et Ibra, il ne le calcule même pas, il lui tend son maillot, mais il ne le regarde même pas. Donc moi, je disais à mes joueurs, oh, franchement, vous avez un peu de fierté, non? J'espère pas qu'il y en ait un qui va échanger le maillot avec Ibra à la fin du match. Vous allez tous passer pour des cons devant vos familles. En fait, bon, de temps en temps, fallait utiliser de subterfuges pour que les garçons restent concentrés sur l'aspect du foot en lui-même et cette possibilité qui leur était offerte de battre des joueurs qui étaient intrinsèquement meilleurs qu'eux. Ça, c'est sûr que le PSG était souvent meilleur que les équipes que j'ai entraînées, mais ça nous a pas empêché de les battre quelquefois.
Et au final, t'as vu un de tes joueurs demander un maillot du PSG ou pas?
Je l'ai pas vu, mais je l'aurais rien dit en fait si ça s'était passé. Le match étant terminé, il faisait bien ce qu'il voulait.
C'est vrai
que d'avoir le maillot d'Ibra, c'est pas trop mal quand même.
Mais c'est vrai que par exemple, les joueurs qui vont demander ça parfois avant le match ou à la mi-temps, ça témoigne déjà d'un complexe d'infériorité. On le voit pas trop au rugby.
Si, il y a des échanges de maillots, on le voit pas vraiment, mais moi ça m'est arrivé, bien sûr.
T'as récupéré des maillots de.
Ah oui, des joueurs que je badais, oui, bien sûr.
Ah ouais.
Avant le match.
Ah non, pas avant le match, mais après le match.
Après le match.
T'as récupéré quoi comme maillot?
Des joueurs des Néo-Zélandais, des Johnny Kirwan. J'ai même le maillot de Lomu que j'ai perdu depuis, que j'avais changé.
Celui qu'il a trouvé a beaucoup d'argent.
C'est normal. Enfin, c'est logique, quoi. Quand t'as admiré des grands champions, à un moment donné, l'enfant ressort de toi, quoi. C'est naturel.
Mais quel conseil tu donnerais à Montpellier? Ne regardez pas le maillot, ne regardez pas les étoiles sur le maillot des Toulousains.
Attendez la fin du match pour les changer. Surtout.
Attends, David, une fois, il y a même un concurrent qui ne s'est pas présenté.
C'était au premier tour des Jeux de Sydney, je crois. Donc le matin, tu vois tous tes adversaires puisque tu te pèses, même en poids lourd. On est tous en slip, là, la queue leu-leu, et on se voit, on jauge, c'est le cinéma. Donc il était là à la pesée, c'était un Uruguayen, et un mec costaud en plus, un mec pas mal. Donc je prenais au premier tour, donc je m'échauffe et tout. Je crois même que je le vois sur le tapis d'échauffement.
En forme, a priori.
Tu vois. Et je me présente pour le premier combat, personne. Il est où?
Il est sauté dans l'avion.
Personne, il s'est pas présenté. Et j'étais fou de rage parce que toi, quand tu cales ta journée, tu te cales sur un certain nombre de combats. Donc tu dis voilà, je m'échauffe. Le premier combat, je vais finir, tu vois. Enfin, je vais mettre dans le rythme pour le deuxième, le troisième. Mais là, je peux pas me mettre dans le rythme parce que le gars est pas là, quoi. Il a affiché la pagaille, cette andouille.
Franchement, il avait déclaré forfait.
J'ai jamais su.
Forfait par peur. Allez, comment on gère le complexe d'infériorité? Bon, si du coup t'as un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, même toi, tu peux avoir un complexe d'infériorité.
C'est
un truc humain.
Essayez pas de le gérer. De toute façon, au bout de quelques minutes, vous allez vous rendre compte que vous avez en face de vous un type comme vous. Donc, voilà. C'est bien d'avoir un complexe d'infériorité parce que on sait où on en est. Oui, puis ça respecte l'adversaire. Puis c'est de l'humilité, etc., etc. Mais l'idée, c'est de donner justement plus le mec est fort en face de vous et plus tu dois par respect donner le meilleur de soi-même.
Voilà. Christophe, j'espère que tu as tout noté. Avant les jeux du sport.
Priorité par rapport à tous ces grands champions, moi qui suis un petit journaliste. J'ose pas rentrer dans votre débat. J'ai peur de pas être à la hauteur.
David, c'est lui qui devrait faire du théâtre.
Non, mais c'est
du cinéma, oui.
T'as raison. Je vais parler de toi. Sincèrement, nous, on est des pulasseurs, on a été compétiteurs, etc., etc. Mais en tout cas, pour raconter, pour faire rêver les gens, pour les transposer sur le Tour de France, sur une pelouse, etc., etc. Chapeau, franchement, sincèrement, c'est un talent, c'est un super talent. Moi, je serais capable de le faire, sincèrement. Et ça, c'est
Vas-y, tu peux commencer par un but là, but de Dembélé. Voilà.
C'est impossible. Enfin non, c'est
maintenant que t'es acteur, tu peux jouer.
Bah oui, mais faut que je me concentre là.
Vas-y, concentre-toi.
Attends, il a répété toute la soirée, il est fatigué, arrêtez de me merder là.
Allez, on referme la porte du vestiaire. Christophe est sidéré parce qu'il n'arrêtait pas de vous tirer des balles depuis tout à l'heure. Il a reçu un compliment, il sait pas quoi faire.
Non mais c'est allez, je le pense vraiment.
Mais un jour j'ai raconté son histoire, c'était mieux avant, il avait des petites larmes.
Bah tu m'étonnes.
Non mais évidemment, mais c'est très bien, c'est très bien.
Faire transmettre l'émotion, faire transmettre une dureté, faire transmettre l'incertitude d'un événement, etc., etc. Mais il faut avoir un talent de dingue pour faire ça. Ah ouais, sans déconner.
Vous retrouvez le vestiaire en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. Mais voilà, ils sont tous sympas maintenant. Oui,
je suis avec mes potes, là, Pascal, Denis et David.
Attends, prochain débat.
Il y a les jugeux qui arrivent.
C'est méga sûr. Enfin, Denis, je me méfie.
Et dans un instant, on vous attend au 32-16 avec un grand Dembélé. Les Bleus deviennent-ils injouables? Ils ont gagné 4-1 face à la Norvège hier. Ils affronteront la Suède mardi soir sur RMC en 16e de finale. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec David Douillet, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Denis Charvet. Tiens, j'ai plein de messages sur WhatsApp. Javiera qui me dit j'adore ces anecdotes du vestiaire. Merci messieurs. Arnaud Gallet qui me dit parfois c'est le père Castor qui raconte une histoire. Bah oui, mais c'est super qu'on puisse partager un peu les moments que vous avez eu, les moments de doute parfois, et qu'on brise un peu cette image de super-héros qu'on a. C'est hyper intéressant de vous écouter. Tiens, je l'ai pas fait depuis le début, mais j'ai une grosse pensée. Je voudrais dédier cette émission à Maurice Adré, ancien entraîneur de l'équipe de France de ski alpin, ancien attaché de presse auprès des skieurs d'Alexis Pinturo, de Tessa Worley, de Jean-Baptiste Grange, qui a été le relais entre les champions et nous à RMC, qui nous a permis d'avoir beaucoup des champions à l'antenne et vous permettre de les avoir avec vous sur RMC, qui était un grand monsieur et qui était un gros auditeur d'RMC. Et je suis très ému en lui rendant hommage ce matin aussi, à Momo, qui a évidemment nous a quitté cette semaine. Cette émission lui est dédiée. Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport, évidemment. Mais d'abord, sur le buzzer, et si Ousmane Dembélé devenait aussi le tube de la Coupe du Monde?
RMC Coupe du Monde 2026.
Et encore un ballon récupéré par les Bleus avec Mbappé. La transversale de Mbappé vers Ousmane Dembélé qui va rentrer dans la surface de réparation. Lancé, la fin de frappe, la frappe du droit. But! Ousmane Dembélé!
Dembélé encore une fois, la frappe de Dembélé!
Ousmane Dembélé! Dembélé qui est encore alerté en un contre un, il le refait de l'autre côté cette fois. Dembélé! Énorme! C'est pas possible! C'est le match Ousmane Dembélé! Ce soir, le ballon d'or est au-dessus de la Norvège!
RMC, les GG sur le buzzer.
Le ballon d'or est au-dessus de la Norvège, a dit Jean-Louis Tour, notre voix du foot au commentaire. Et oui, Ousmane est bien là. Alors, il n'a pas voulu sourire en interview après match. Concentré, dit-il, sur la suite de la compétition. Peut-être pour répondre à ceux qui ont douté de lui. Avec son triplé, le troisième de l'histoire des Bleus à la Coupe du Monde, le ballon d'or porte son total à 4 buts dans la compétition. Les GG, je vous pose la question. Est-ce qu'avec un grand Dembélé, ce qui est peut-être ce qui manquait à cette attaque française, est-ce que les Bleus deviennent injouables? David Douillet.
Oui.
Pascal Duprat.
Oui.
Denis Charvet.
Oui.
Christophe Cessieux.
Oui.
Vous êtes tous dithyrambiques ce matin. Ah ben non, mais alors on vous attend évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Pourquoi, Christophe? C'est l'élément qui manquait.
Ben oui, parce que jusque-là,
il y a l'euphorie ce matin chez les supporters français.
Dembélé, est-ce que c'est pas le maillon faible de cette attaque de l'équipe de France, alors qu'il est ballon d'or, alors qu'il a fait deux saisons exceptionnelles avec le Paris Saint-Germain? Mais on avait l'impression qu'il avait du mal à trouver sa place à côté de toutes ces stars. Et ben finalement il s'est fait un peu piquer et puis surtout il est arrivé fatigué, je pense, après la saison au PSG. Et puis là, et ben il a retrouvé toute sa classe sur le côté droit, qui est pas forcément là où il joue avec le PSG. Mais quand il est dans un jour comme ça, il est injouable. Et quand en plus il se fait offrir des caviars par Mbappé et par Mbappé surtout hier soir, tu te dis, mais c'est incroyable la chance d'avoir ces trois-là, plus Doué et Barcola. Je pense qu'on n'a jamais eu une attaque de l'équipe de France dans toute l'histoire de l'équipe de France d'une telle qualité.
C'est aussi la patte de Didier Deschamps. Ouais. Que de
leur faire confiance
et de les mettre dans les bonnes configurations temps. Pour toi les passes dont tu parles elles sont pas au hasard, ça a été dit, ça a été même sans doute préparé,
travaillé.
Tu dis qu'il est bien sur la droite, ben c'est probablement
oui, mais enfin le premier match il était dans l'axe derrière Mbappé, ouais. Et puis Deschamps s'est rendu compte que c'était pas bien, voilà, il l'a mis à droite et il a mis un match pour
ils sont marchés dessus un peu sur le premier match, oui, mais c'est vrai que c'est la grande force de Didier Deschamps. Peut-être Pascal, je sais tu le rends hommage toi, depuis toujours à Didier sur son travail, mais c'est notamment la patte de Didier Deschamps de voir Dembélé à ce niveau-là aujourd'hui.
D'ailleurs on voit, oui bien sûr, on voit au travers des trois matchs, donc le premier Dembélé est comment dire en 10, il est moyen, pas transparent, moyen, mais comme beaucoup de joueurs d'équipe de France, parce que le Sénégal était bloc bas, c'était très difficile. Le deuxième match ils alternent entre Olise et lui, tantôt il est à droite, tantôt il est dans l'axe, et puis là le troisième il est chaque fois contre sur la ligne, il dézone jamais, il est toujours à droite. Moi il y a quelque chose qui m'a stupéfait hier, c'est le deuxième but, c'est là pour dire que Dembélé ajouté au talent d'Mbappé, d'Olise et consorts fait que la France est injouable. Le deuxième but, je vous invite à le regarder, mais à regarder l'effort, la construction, c'est bloc bas, c'est Olise qui est vite trouvé, qui trouve Mbappé qui est en plein axe, qui se retourne, qui fait une passe sur le côté, il est au sol Mbappé, il est tenu par le maillot, il se relève et il va appeler dans le dos de Dembélé.
Mais c'est la patrouille de France.
Ben c'est impressionnant. Regardez ce but là, Mbappé, le jeu sans ballon est impressionnant. Il y a la passe bien entendu, mais il y a aussi le jeu sans ballon, ce qui veut dire que tout le monde joue pour l'équipe, et ça franchement en équipe de France c'est absolument exceptionnel,
c'est rare.
Presque nouveau,
oui, mais c'est nouveau. Alors, et presque ouais, t'as raison, il est presque inédit, hein, ouais.
Oui, mais on s'inquiétait au début quand même, le premier match aussi, Dembélé, mais il n'y arrivera jamais en équipe de France. Tout le monde se posait la question de savoir s'il allait franchir un jour le cap par rapport au Dembélé qu'on voyait au PSG,
62 sélections, 11 buts aujourd'hui.
Non, mais on n'a jamais vu Dembélé en équipe de France comme on l'a vu hier soir.
C'est son meilleur match,
désolé,
en bleu,
mais c'est pas le meilleur match. Hier il est exceptionnel, comme il peut l'être au PSG. Alors c'est pour ça que le débat est intéressant, parce que hier il a changé la donne, c'est-à-dire que s'il continue sur cette même performance, oui évidemment il va amener un plus à l'équipe de France.
Mais moi je te dis, hier moi ma réaction après le deuxième but, je me suis dit on va être champion du monde,
on va jamais l'arrêter. Non mais c'est vrai, mais alors, moi aussi le troisième,
et après il y a le but derrière qui climatise tout,
le troisième tu te dis mais voilà maintenant il est reparti, ça y est.
Mais c'est le seul truc qui manquait,
ça vient aussi, moi je pense qu'il y avait un blocage en équipe de France avec Dembélé. Alors évidemment Deschamps il a repositionné Olise derrière, il l'a mis à droite, donc ça évidemment ça va mieux, ça s'articule mieux avec les quatre attaquants, mais je pense qu'il y avait un vrai blocage, que hier on l'a jamais vu autant en confiance.
Mais est-ce qu'on en a suffisamment vu? C'est ça la question qu'on peut se poser aussi, parce que là certains ont remis en cause
mais moi je trouve que mais hier quand tu vois Dembélé en équipe de France à ce niveau là t'as que des regrets presque. Tu te dis mais pourquoi on l'a pas eu il y a 4 ans en finale contre l'Argentine? Non mais tu te dis, souvenez-vous le match contre l'Argentine, il sort à la mi-temps. Non mais je veux dire, rappelez-vous quand même,
il a explosé depuis 4 ans quand même.
Non mais explosé, pas en équipe de France.
Avec le Paris Saint-Germain, ça lui a donné une confiance incroyable. Le mec il est désigné Ballon d'Or. Derrière, quand tu rentres même avec l'équipe de France, quand t'as des garçons,
c'est pas la même chose. Jouer en équipe de France et en club, c'est pas la même chose.
Enfin, tu accumules de la confiance, tu joues avec des gens avec qui tu t'entends bien.
Là il est en pleine confiance.
Tu crois qu'il est toujours mauvais en équipe de France parce que c'est l'équipe de France?
Mais il a jamais brillé en équipe de France, à part hier.
Il est mûr. On ne peut pas dire qu'il n'ait jamais brillé. On va dire qu'il n'est pas constant en équipe de France.
C'était ponctuel à chaque fois. Hein. Mais souvenez-vous, en Coupe du Monde 2018, il perd sa place de titulaire.
Oui, en 2022, il n'a pas une carrière.
Mais franchement, je vous le dis, je vous l'ai dit tout à l'heure ce matin, en regardant ce qui se dit à l'étranger ce matin, c'est... Non mais vous vous rendez compte, quand Mbappé est un peu moins bon offensivement, ils ont Dembélé. Ouais. Ils ont Olise, ils ont Désiré Doué et Barcola qui rentrent et qui marquent. On a Grégoire au 32-16 qui nous appelle de Tourcoing, qui veut participer au débat. Salut Grégoire.
Salut les GG.
Bon, est-ce que ce matin c'est l'euphorie, tu te dis avec ce Dembélé là, c'était l'élément qui manquait pour devenir injouable?
Bon, je suis désolé, j'ai pas envie de casser l'ambiance, j'ai pas envie non plus de faire le français moyen qui est jamais content.
mais
voilà. Alors, bien sûr que si on a un Dembélé à ce niveau-là, jusqu'à la fin de la coupe, ça va forcément nous aider, ça va forcément devenir une équipe injouable. Mais attention, parce que moi hier j'ai vu des trous d'air défensifs. On a joué quand même contre l'équipe B de la Norvège et on s'est mis en difficulté plusieurs fois. Mike Maignan nous sort un penalty parce que sinon ça doit faire 3-2. Moi voilà, j'ai mes quelques inquiétudes et j'ai envie de faire en fait le comparatif avec le Bayern Munich en Ligue des Champions. On les voyait gagner facilement, on les voyait taper le PSG avec leurs quatre fantastiques à eux aussi. Et au final, ils sont tombés sur un os. Donc je veux pas casser l'ambiance, c'est juste.
Ouais, mais il n'y a pas de sélection nationale du niveau de l'équipe de France. Je suis désolé. Si tu compares le Bayern de Munich, il y avait quand même le Paris Saint-Germain en face d'eux. Relais sélection nationale, tu prends l'Argentine, tu prends l'Allemagne, tu prends l'Espagne également depuis le début du premier tour. Je suis vraiment désolé. Elles sont pas intrinsèquement au niveau de la France.
Oui, mais
on est sur un premier tour. Est-ce que le milieu du Portugal n'est pas au-dessus du milieu de terrain de l'équipe de France? Attention, il ne faut pas se reposer sur nos acquis. On va affronter des belles équipes. On est bien sûr sur le papier au-dessus. Mais attention, on va affronter des belles équipes.
L'avantage, c'est qu'on ne joue pas. Même si on s'enflamme, on ne joue pas. Donc
oui, mais pour le coup, c'est important ce que tu dis, Grégoire. Et il y a quand même beaucoup de réactions comme toi sur WhatsApp. Attention, c'est vrai que là, c'est le coup de foudre. On est amoureux de cette équipe de France, on n'a jamais vu ça. On avait envie de voir ça depuis des années, une équipe ultra offensive qui fait les différences. Mais attention à ne pas être dans l'aveuglement, peut-être aussi parce que ça brille. Et regardez aussi peut-être que défensivement, il peut y avoir des failles. Et là, on va arriver sur les matchs qui comptent, hein, parce que c'est bien de faire 3 sur 3.
Je peux pas m'imaginer qu'un garçon aussi capé et aussi intelligent que Didier Deschamps n'ait pas pu penser à cette version. Il est sûr qu'on va rencontrer des os. Pour être champion, il faut gagner face aux plus forts et aux meilleurs. Et
Dieu sait, on rappelle la Suède mardi et ça peut être l'Allemagne a priori en huitième de finale.
Et je suis certain que ce scénario a déjà été préparé par Didier Deschamps sur une équipe très forte sur laquelle on va se casser les dents en attaque. Je suis certain que le scénario où on va renforcer la défense et faire blocus à l'arrière, ça va fonctionner.
Tiens, je voudrais qu'on écoute Ousmane Dembélé hier après la rencontre.
Oh, je suis content, c'est un moment unique et important pour moi. Après, comme je l'ai dit, la performance est bonne, mais il faut rester concentré. Il y a des choses importantes qui vont arriver. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de terminer premier du groupe et de rester concentré pour la suite de la compétition. Oh non, je me sens très bien, que ce soit sur le terrain et avec l'équipe. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est de rester concentré et penser à l'équipe.
Il n'a pas envie de parler.
Mais alors, tu sais quoi? Moi, cette façon de communiquer, ça me donne encore plus de confiance. Mais non, parce que c'est le Dembélé qui a été piqué au vif par les critiques, qui a répondu sur le terrain.
C'est un grand champion.
Et
bien
c'est
sûr.
Le Dembélé.
Mais c'est encore en lui.
Souvenez-vous, les amis, c'est le Dembélé qu'on a vu en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'après chaque victoire importante du PSG, il venait au micro juste après le match du diffuseur. À chaque fois, pas du tout d'enflammade, à dire l'objectif, il est plus loin, les gars. L'objectif, il est plus loin, il n'y a pas d'enflammade. Finalement, c'est ça qu'on a envie de voir aussi, David.
Bah oui,
il y a des attitudes qui montrent des choses.
Il faut que ça contraste avec ce qui se passe à l'extérieur. Et à l'intérieur d'une équipe qui n'a pas encore terminé son épopée, eh ben, c'est de l'humilité et on se met en retrait, on reste concentré. Oui, mais surtout, on ne s'enflamme pas.
Ouais. C'est le jeu aussi de la critique. Je suis désolé, Dembélé, en équipe de France, ça n'a pas été toujours le Dembélé d'hier soir. Et donc, c'est vrai qu'il a quand même eu du mal à supporter les critiques comme les grands champions.
Mais il a du mal, mais il répond tranquillement.
Non, mais c'est pas
Samir Nasri il y a quelques années à l'Euro qui avait dit fermez vos bouches.
Hier, quand il marque, il fait le geste comme ça, taisez-vous, tout ça, ça me plaît pas, moi.
Ah, pourquoi?
Non, mais ça me plaît pas. Reste au-dessus de la mêlée. T'es un grand champion. Mais non, j'adore ce mec, mais j'adore ce joueur. Mais je dis, reste au-dessus de la mêlée.
Mais s'il s'en sert positivement,
c'est ce qu'il est en train de faire. Il reste au-dessus de la mêlée. Il ne
fait pas de geste comme ça, de dire fermez vos bouches.
Non, mais voilà, mais en gros, je fais taire les critiques, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais ça s'entend, Denis, ce que tu dis.
Mais ça s'entend, je dis pas que j'ai raison, mais moi, ça me plaît pas.
J'avais pas vu cette célébration comme ça. Après, je pensais que c'était.
Écoute,
si les piquets ont fait que ça lui paraît de marquer des triplés derrière.
On va continuer à piquer.
Allez, je remercie Grégoire d'être venu au 32-16.
Merci Grégoire, on a la trouille.
Souvenez-vous, la semaine dernière, on disait est-ce que Dembélé est en grand danger? Ben voilà. voilà. Alors, on en ferme notre bouche maintenant et on est bien contents. Oui. Sauf Pascal Croyer, il avait dit que c'était le meilleur joueur offensif sur la première période face au Sénégal. Et Kylian Mbappé d'ailleurs avait dit la même chose.
Pascal, c'est un grand coach.
C'est l'oracle. Allez, les jeux tout de suite, restez avec nous.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
On est sur le tatami avec David Douillet, Christophe Cessieux, Denis Charvet et Pascal Duprat. Tout de suite, on joue.
Il n'y a pas Benito.
RMC, les jeux du sport.
Le dictateur Julien Benito. Hein, c'est n'importe quoi. Je vous explique le principe. Hein, c'est du 2 contre 2, vous défendez un auditeur. Je répartis les équipes. Christophe Cessieux. Avec David Douillet et Pascal Duprat.
Pascal, je suis heureux de jouer avec toi.
Avec Denis Charvet. C'est vrai que je mets jamais Pascal avec Christophe parce qu'il a une faculté à rendre fou Christophe qui m'amuse énormément. Je vous rappelle que
la... je me mets en adversaire.
Ouais, bien sûr, parce que on est là pour que ça.
En fait,
ça
tu veux nous
monter les uns contre les autres.
Ouais.
Tout à fait.
Alors que je vous rappelle en foire avec
que la question impossible est activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs. Romain de Chartres et Ludovic qui nous appellent du Nord. Bonjour messieurs.
Bonjour tout le monde.
Romain, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux Douillet ou Duprat Charvet.
Je prendrai Cessieux Douillet.
Cessieux Douillet pour Romain. Et Ludovic, tu pars donc avec l'équipe Duprat Charvet. Quelle bataille psychologique.
Oui, mais oui,
je rappelle que vous pouvez gagner un bon quart de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint. Allez, c'est parti les amis, on se concentre. Question à une seule réponse.
Aïe, aïe.
Une seule réponse aïe. Possible. Nous sommes en 2026. Qui a gagné Wimbledon il y a 20 ans chez les hommes?
Federer,
Denis Charvet.
Je savais pas, mais j'avais une chance sur.
J'étais en train de regarder 2006.
Pascal, je suis dans le match.
T'as vu, je te dis pas. Ouais, si je te fais quelques
Denis. Moi, je pensais Bjorg.
Tu vas toujours me voir. C'est un coup de cul phénomène.
Mais non, je vais devoir.
Calmez-vous. Chapeau. Tu les as calmés.
Là, vous parlez tous en même temps. Du coup,
le complexe d'infériorité, là.
Allez, 1-0 pour l'équipe du Prince Charvet.
David est abattu.
Question à une seule réponse. Une seule réponse, les GG. Quelle est la dernière équipe à avoir battu le Stade Toulousain en finale du top 14?
Biarritz, en 2006.
Bravo Christophe Cessieux qui a préparé sa finale. Il sera ce soir, évidemment.
Impardonnable.
Gérer cette soirée à partir de 20h hein, sur RMC.
On en avait parlé hier. Là.
Question auditeur, c'est pour vous, Romain et Ludovic. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je peux bien identifier qui donne la réponse. C'est OK pour vous?
OK.
Romain et Ludovic, contre qui joue la Jordanie ce soir à la Coupe du Monde?
Non, c'est pas l'Irak.
Non.
Jordanie.
L'Argentine. Qui a dit l'Argentine?
Romain.
Un point pour l'équipe Cessieux Douillet.
Mais il n'avait pas déjà donné la réponse.
Romain, il est avec nous.
Romain de Chartres. Il a donné la réponse dans l'émission. Eh oui, parfois il y a des réponses à donner dans l'émission. Je rappelle que ça, si vous êtes attentif.
T'es dégoûté, là.
Allez, question à plusieurs réponses possibles, les amis. Vous savez que les championnats de France de cyclisme sur route se disputent ce week-end en Isère. Non, tout le monde peut la trouver, cette réponse.
Ouais. Ah.
Qui a été champion de France de cyclisme sur route en 1987?
Hino.
Wow. T'as dit quoi, Pascal?
Hino.
Non.
Non.
Fillon.
Madio.
Madio.
Mon Denis, je te kiffe.
Marc Madio devant Luc Leblanc.
C'est un grand match.
Voilà. Bravo Denis.
De partout. Question à plusieurs réponses. Les GG. Dans quelle ville se situe le Grand Prix d'Autriche en Formule 1? Vous pouvez tous le trouver si vous êtes des fans.
C'est Red Bull City là.
Non, si vous êtes Salzbourg. Si vous êtes des fans de cinéma, vous pouvez tous le trouver.
Hein? Vienne.
Un grand réalisateur.
Spielberg.
Pascal.
Yes. Oui, yes, Pascal, c'est le break.
J'avais même pas que c'était une ville. Hein.
C'est le break.
Bravo.
C'est le break.
Ah, là, 3-2. Tu les as tués, tu reviens.
Attends.
3-2 pour l'équipe du Prat.
Calme-toi. Allez, mon Denis.
Question auditeur. C'est pour vous, Romain et Ludovic. Votre réponse.
Allez, Ludo.
Ludo, si tu veux gagner, c'est maintenant.
Qui a gagné Wimbledon l'année dernière chez les hommes?
Kinner.
C'est qui?
C'est Ludo.
C'est qui donne la réponse? C'est Romain?
Romain,
bravo. 3 partout.
Ludovic, si tu veux pas gagner, tu le dis.
Égalité.
Ludo. Allez,
trois partout.
On y va, Denis.
Question à élimination pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle une erreur et vous êtes éliminé. Finale du top 14. Christophe.
Ah oui.
Et prends du magnésium. J'arrête ton stress. Donnez-moi, s'il vous plaît, les 20 équipes qui ont remporté le plus de boucliers de Brennus. Les 20 équipes à avoir le plus remporté le championnat de France de rugby. Christophe, on commence par toi.
Le Stade Toulousain.
Le Stade Toulousain, évidemment.
Biarritz.
Denis, Biarritz, c'est bon. David.
La Rochelle.
La Rochelle.
Mais non.
Non.
La Rochelle, c'est pas bon.
Il n'a jamais gagné.
C'est pas bon.
Il n'a jamais gagné, c'est pas grave.
Pascal.
Béziers,
c'est bon. 11 boucliers de Brennus. Christophe.
Lourdes.
Lourdes, bien sûr, avec 8 boucliers.
Toulon.
Toulon avec 4 boucliers, c'est bon. Pascal.
Stade français.
Le Stade français avec 14 boucliers, ça passe. Christophe.
Le Racing.
Le Racing 92, 6 boucliers, ça passe. Christophe, il est ultra concentré, il a même un stylo. Oh là là. Dani.
Narbonne,
c'est
pardon.
Chaud, Narbonne, c'est bon, 2 boucliers. Pascal, concentre-toi, Christophe.
Castres. Ils ont gagné.
Castres, 5 boucliers, c'est
oui,
bon.
Pascal.
Ah oui, oui, Pascal. Christophe.
Bègle.
Ouais, Bordeaux.
Bègle, oh, c'est à Bègle, 2 boucliers, ça passe.
Ouf.
Denis, 5, 4, 3,
le Creusot.
2, 1, éliminé. Ça marche pas, le Creusot. Pascal.
Tu vois,
5,
je sais pas si on l'a dit, 4, celui-là. On l'a dit, celui-là.
3,
2, Biarritz.
Biarritz, déjà dit, éliminé. Christophe, tu as la balle pour prendre les deux points.
Balle de 7.
L'USAP.
L'USAP, c'est bon. Les deux points pour l'équipe Cessieux Douillet qui repasse devant pour un point. Attention, c'est pas terminé, reste une minute. Question à une seule réponse. Contre qui joue le Portugal la nuit prochaine à 1h30 du matin?
Ouh là là.
L'Azerbaïdjan.
Non, ils sont pas la Coupe du Monde.
Merde.
Éliminé, Denis, Pascal.
Colombie.
La Colombie.
Oui. Yes.
Égalité. Non, non. 5-4.
Non, c'est égalité.
Question à une seule réponse. Question à une seule réponse. Nous sommes à une semaine du départ du Tour de France.
Barcelone.
Qui a gagné? Non, éliminé. Qui a gagné le Tour il y a 10 ans?
Donc il y a 10 ans, c'était 2016.
Froome.
Froome. Égalisation.
Bravo. Pascal, t'es un génie.
Dernière question.
Allez, Denis, c'est toi là.
Tout David, question à une seule réponse. Tout le monde peut trouver cette réponse. Nous sommes en 2026. Il y a 30 ans.
Ah non, mais tu nous emmerdes avec ça.
Qui était le dernier porteur de la flamme au JO d'été?
Il y a 30 ans.
David Douillet. Non, un dernier porteur de la flamme.
Non, non.
Mohamed Ali.
Mohamed Ali. Denis
Charvet. Oui, Denis.
La victoire oui, pour l'équipe Denis et Pascal
et Jean, on est des génies.
Ludovic, bravo Ludovic.
Il est couché, Christophe.
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
C'était beau celui-là.
Et c'était bravo.
Non, très beau. Bravo Pascal.
Vous êtes des cadors, les gars.
Bravo Denis.
Je vous vénère.
Bravo David.
Merci Christophe. Tant d'égards.
Passe les feuilles au visage de Denis. Christophe, vous retrouvez ce soir dès 20h pour la finale du top 14 sur RMC Toulouse. Montpellier, Christophe qui ne sera pas dans les grandes gueules du sport mais que vous retrouvez et je sais que ça va vous faire plaisir, vous allez sentir l'été arriver.
Route du tour.
Au commentaire de l'intégral tour dès samedi prochain sur RMC à Barcelone et les grandes gueules du sport sont à Barcelone. D'ailleurs, allez, merci les amis, restez avec nous, les paris RMC arrivent.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.